Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver après ces quelques semaines de congé et j'avais si hâte de vous reparler et de discuter avec l'ensemble de mes collaborateurs, d'autant plus qu'on est gâtés côté actualité. Évidemment, vous me voyez venir à des kilomètres avec la question d'Amira Rabaoui, cette commissaire de lutte à l'islamophobie nommée récemment par le gouvernement Trudeau. Et j'y pense depuis que c'est sorti, là, depuis une semaine que c'est dans ma tête, puis ça roule, puis ça roule. Puis là, je me demandais, puis je partage ça avec vous, là, à quel point le gouvernement Trudeau prend la lutte à l'islamophobie au sérieux? Parce que je peux pas croire qu'on puisse nommer une personne aussi controversée, une personne qui a eu des propos aussi abjects et mensongers. C'est à se demander si cette nomination n'a pas été faite sans les vérifications d'usage parce qu'on ne prend pas la lutte à l'islamophobie au sérieux. Quand je pense aux veuves et aux orphelins des attentats de Québec, quand je pense aux proches de la famille tuée à London, en Ontario, parce qu'ils étaient musulmans, quand je me dis qu'on nomme cette personne qui a tenu ces propos-là comme commissaire pour lutter contre l'islamophobie, je me dis qu'on leur rend pas service. C'est pas correct de faire ça. On lutte pas contre l'islamophobie quand on nomme quelqu'un qui utilise les mêmes procédés que les islamophobes, soit en tenant des propos pointant du doigt, accusant à tort, insultant, dénigrant. Quelle crédibilité elle aura, Mme Rabaoui, lorsqu'elle va devoir conseiller le gouvernement Trudeau, le premier ministre Trudeau, sur la situation de l'islamophobie au pays, spécifiquement au Québec? On n'a pas besoin d'être devin pour imaginer que ses propos, ses conseils, ses positions vont être balayés du revers de la main parce qu'on sait ce qu'elle pense au fin fond d'elle. On sait bien qu'elle ne porte pas le Québec dans son cœur. On saura que ce n'est pas une position désintéressée, neutre et impartiale. Elle n'a tout simplement pas la crédibilité, pas l'autorité, pas l'adhésion ni des autorités publiques ni des communautés musulmanes. Aujourd'hui, Madame El Rabaoui nuit à la cause de la lutte à l'islamophobie plus qu'elle ne l'aide. Puis là, il y a le premier ministre là, Trudeau qui nous dit, sans cligner des yeux, et je le cite, « Elle est la bonne personne pour pouvoir bâtir des ponts, pour écouter, pour apprendre, pour enseigner aussi et pour rassembler les gens. » Eh bien, je regrette. Je regrette, Monsieur Trudeau, c'est pas le cas. M. Trudeau doit impérativement reculer devant cette décision et cette nomination. Il doit la démettre de ce poste. Il n'aura pas le choix. Il doit faire aussi un mea culpa de ne pas avoir pris le dossier au sérieux, d'avoir trop tardé pour agir. Et ça, ça serait le premier geste et le plus grand service qu'il pourrait rendre aux victimes d'islamophobie.
Ex-conseillère politique, et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Vous avez peut-être vu ça dans les derniers jours. Il y a un bébé qui est né il y a quelques jours avec rien de moins qu'un stérilet dans les mains, comme si c'était pour narguer ses parents, là, pour leur dire « je le tiens et j'ai fait ma place, que vous le vouliez ou pas ». Et on ne sait pas si c'est un phénomène fréquent ou pas, mais la photo a fait un peu le tour du monde, là, le petit bébé fraîchement qui vient de naître avec un stérilet dans la main et la maman qui le tient. Puis là, on se pose la question, est-ce que c'est dangereux? Comment ça se peut avoir un stérilet dans les mains, naître avec ça et de toute manière avoir une grossesse alors qu'il y a un stérilet? Et pour nous en parler, on a avec nous Dr. Michel Welt, qui est obstétricien gynécologue bénévole pour la Clinique Médecins du Monde. Bonjour, Dr. Welt.
Oui, bonjour.
Donc, comment c'est possible? Expliquez-nous comment la science peut justifier, peut expliquer la photo que l'on a vue et l'histoire qu'on nous a racontée.
Bon, d'abord, aucune méthode de contraception n'est absolument infaillible.
L'abstinence. Oui? L'abstinence en est une qui est relativement infaillible?
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est plus une boutade en général qu'une affirmation, mais enfin. Ça dépend un peu, et le taux de, d'échec avec le stérilet dépend du type de stérilet. Le stérilet qui relâche un peu d'hormones dans l'utérus est quand même très, très sécuritaire. C'est très, très rare qu'il y ait une grossesse s'il reste à la bonne place. Le stérilet qui est inerte, qui a juste du cuivre et du plastique pour empêcher la grossesse, le taux d'échec bien connu est de 1 à 2%, même s'il est bien placé et même s'il se déplace pas. Maintenant, il y a d'autres, à part les raisons propres au stérilet, il y a bien sûr de temps en temps des stérilets qui sont expulsés ou encore qui se déplacent vers le bas de l'utérus. Maintenant, ça ne devrait pas être le cas qui nous concerne, puisqu'il semble que le stérilet est bien attaché à la grossesse cette fois-là. Donc, c'est vraiment un échec en soi de la méthode, parce que la façon dont ça fonctionne, c'est le stérilet, il induit un état défavorable pour la nidation de la grossesse. En fait, l'ovulation a lieu, la fécondation a lieu, la grossesse transite par la trompe et finalement arrive dans l'utérus. Jusqu'à présent, le stérilet n'a pas beaucoup d'effet. Mais une fois qu'il est dans l'utérus, à cause du stérilet, il y a de l'inflammation ou il y a de l'atrophie. Ça dépend du type de stérilet et le milieu est défavorable. Mais cependant, il y a dans certains cas, la grossesse est très forte. Elle arrive à s'implanter quand même et finalement, elle se finit par se développer malgré la présence du stérilet.
Mais Dr. Weld, est-ce que ça peut être dangereux pour un fœtus? En fait, pour le bébé, par exemple, dans le cas que l'on a vu, est-ce qu'éventuellement, si par exemple les parents se rendent compte qu'il y a eu une grossesse et qu'on désire garder l'enfant, est-ce que ça peut être dangereux pour le développement du fœtus?
Oui, souvent, quand il y a une grossesse avec un stérilet, c'est que le stérilet est un peu déplacé, il est un peu migré vers le bas, et donc libère un espace qui est plus favorable à la grossesse, c'est là que la grossesse s'installe. Dans ce cas, quand on a une patiente qui devient enceinte malgré un stérilet et qu'on voit bien la corde, en général, on essaye d'enlever le stérilet au tout début de la grossesse. En général, ça ne cause pas de préjudice à la grossesse parce que la grossesse est assez loin du stérilet le plus souvent. Et c'est sûr que dans ce cas-là, c'est une grossesse qui redevient comme une grossesse normale. Si on n'est pas possible, si le stérilet est haut et bien placé, souvent la corde va disparaître quand l'utérus grossit et on ne peut pas vraiment l'enlever, on n'a pas accès. Dans ces cas-là, évidemment, la présence du stérilet quand même est un corps étranger dans l'utérus. En principe, ça peut causer souvent de l'inflammation ou un léger trauma au développement de la grossesse. Et le fait d'avoir une grossesse avec un stérilet, bon, ça augmente le risque de fausse couche au premier trimestre. Ça augmente aussi de façon moins importante le risque d'accouchement prématuré et de rupture prématurée des membranes, parce que ça crée quand même de l'inflammation, ça crée qui est moins favorable au développement. Donc, il faut une grossesse qu'il faut surveiller de plus près. Mais malgré tout, la plupart des grossesses quand même se rendent à terme relativement normalement.
Mais quand on y pense, ce bébé qui tient le stérilet dans ses mains, donc on imagine que le stérilet était à l'intérieur du sac amniotique. Donc, c'est plus difficile d'aller le chercher une fois que la grossesse est avancée, pas vrai?
C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'enlever le stérilet au tout début, c'est sûr qu'il va rester dans la cavité utérine. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la photo. En général, le stérilet est comme collé entre la membrane et la paroi utérine, ou il est collé au niveau du placenta. Est-ce qu'il peut se retrouver à l'intérieur de la cavité amniotique? Ça me semble très exceptionnel. Je pense que, je ne sais pas si c'est juste une figure de style ou bien...
Non, mais on se pose la question parce que la photo que l'on voit dans le Journal de Montréal, notamment, le bébé, il a le stérilet dans les mains. Il le tient.
Est-ce qu'on lui a mis après la naissance?
Non, il est né avec le stérilet dans les mains. C'est l'histoire qui est relatée, c'est qu'il est né avec le stérilet dans les mains et donc on se demande. Donc il a grandi ce bébé en gestation avec un stérilet à sa proximité.
Ça c'est vraiment très très exceptionnel. On voit de temps en temps effectivement des accouchements avec un stérilet en place dans l'utérus, mais en général, presque toujours, le stérilet est extra-amniotique, il est à l'intérieur du sac amniotique, il est collé à l'utérus. Le fait qu'un stérilet qu'une grossesse se développe avec un stérilet dans la cavité amniotique. Je pense que c'est bien la première fois que j'entends parler de ça ou que je vois ça. Ça doit, j'imagine que ça peut arriver, mais ça, c'est sûrement quelque chose de très, très exceptionnel. Et je pense qu'il n'y a pas de littérature pour moi qui peut dire qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là.
Eh bien, ça, c'est évidemment des cas exceptionnels qui font le tour du monde et qui nous laissent un peu incrédules. Docteur Michel Welt, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes obstétricien gynécologue bénévole pour la clinique Médecins du Monde.
Ça m'a fait plaisir.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346.
187 Cube Radio.
C'est le temps de retrouver Guillaume Lavoie. Guillaume, je suis très heureuse de te reparler et je sais qu'on a tellement d'actualités internationales et américaines à couvrir, mais tout d'abord, j'aimerais te remercier du remplacement que tu as fait avec brio pendant mes quelques semaines de congé de maternité.
Ben, c'est bien gentil, heureux de te retrouver, Yasmine.
Alors, Guillaume, il y a chez les républicains américains une course et Nikki Haley se prépare. Peux-tu nous dire qui est la fameuse Nikki Haley?
Oui, alors c'est un peu surprenant. On a l'impression que c'est pas compliqué aux États-Unis. Vous êtes toujours en élection, particulièrement le lendemain des élections. Et imaginez, on est en 2023 et ça, c'est tard parce que dans 2 ans, un peu moins, il y a une élection présidentielle et là, on veut déjà se préparer. Et même si Trump est un peu, sans faux jeu de mots, l'éléphant dans la pièce républicaine, ben là, il y en a plusieurs qui y pensent, et il y a un nom que vous allez entendre parler de plus en plus, Yasmine, c'est Nikki Haley. Alors, qui est-elle? Pourquoi? Comment? Alors, elle est, c'est une femme qui est une fille d'immigrants indiens, et elle a été gouverneure républicaine de Caroline du Sud. Et par la suite, elle a fait son mandat, avait une certaine popularité dans les médias auprès de la base républicaine. Elle avait été très, très critique de Trump, hein, pour des choses qui font du sens, là, parce qu'il ment comme il respire. Elle avait dit, par exemple, des phrases comme « Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui agit exactement contrairement à ce que j'enseigne à mes jeunes enfants. Hein, » par exemple, la grossièreté, la malhonnêteté, etc. Mais une fois Trump élu, ben là, tout ça, ça se met dans un contexte, c'est pas clair, c'est pas vraiment ça que j'ai dit, Et Trump l'avait nommée ambassadrice aux Nations Unies.
Oui.
L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, qui est un poste très important. Et Mme Haley est toujours dans les rumeurs pour revenir sur l'avant-scène politique. On parlait d'elle, par exemple, comme une candidate potentielle pour la vice-présidence. Et là, il y avait plusieurs rumeurs sur elle comme candidate pour avoir la nomination républicaine. Et là, c'est intéressant parce que son discours a changé. Pendant les 2 dernières années, c'était « j'y pense peut-être, mais si Trump est là, oubliez-moi, j'y vais pas, Trump c'est mon homme ». Et là, les rumeurs, c'est on est le 1er février, le 15 février, elle va annoncer officiellement qu'elle sera candidate, que Trump soit là ou pas. Alors, ça en dit beaucoup sur la suite des choses. Madame Haley, elle se présente très tôt. Très, très tôt dans le processus.
Pour quelle raison elle se lance aussi tôt alors qu'elle sait qu'un Donald Trump, avec ses capacités à détruire ses adversaires, soit-il à l'interne, est assez importante?
Mais d'abord, elle est. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas dans le décor. Alors, on ne choisit pas toujours le meilleur plan possible sur la table. On choisit le meilleur plan, la meilleure stratégie en fonction de nos possibilités et d'où sont les autres. Alors, Mike Pence peut se permettre d'attendre plus longtemps. Madame Haley, elle est connue, mais beaucoup moins que d'autres. Madame Haley, elle veut se positionner. Alors, il faut qu'elle commence plus tôt. Ça vient avec des avantages. Aller chercher des donateurs, des appuis, faire parler d'elle beaucoup, va remettre son livre en circulation, aller bizarrement en visite au New Hampshire, en Iowa, en 2 grandes destinations touristiques électorales. Mais là où elle va peut-être payer le prix d'aller très tôt, c'est évidemment, là, tu le disais bien, c'est la machine à détruire de Trump qui va dire « elle m'a été déloyale, elle est comme ça, elle devrait peut-être rester chez elle, je lui ai tout donné, elle serait rien sans moi ». Alors, beaucoup de gens veulent y aller en disant « si Trump finit par pas être là, est-ce que moi je vais pouvoir être positionné ?» Et n'y a pas d'autres femmes à date là, qui se positionnent autant qu'elle. Il y a peut-être une gouverneure là, du Dakota du Sud, mais ça va être intéressant parce qu'elle a toujours voulu jouer en disant ben, « Trump, avec moi, a toujours été honnête, mais peut-être qu'il ne l'a pas toujours été avec d'autres. » Alors, à un moment donné, il va falloir, tu ne peux pas faire semblant là, de toujours louvoyer, il va falloir qu'elle se positionne. Est-ce que Trump, c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui dit la vérité? Est-ce que Trump, c'est l'homme de la situation ou c'est l'homme du passé ou du passif? Alors ça va être intéressant, mais ça prouve bien que c'est peut-être pas si réglé que ça du côté républicain.
Je veux t'entendre sur une réflexion que je me faisais, puis je compare un peu l'incomparable, je le dis déjà à l'avance, là, en Angleterre, on avait un Boris Johnson que je sais qui est à milieu d'un Donald Trump, mais on dirait que, tu sais, c'est le même mouvement, les mêmes mouvements un peu plus populistes, appelons-les comme ça, qui des mouvements conservateurs, plus à droite, un peu comme les républicains, et on retrouve certains éléments dans ces mouvements-là qui sont des personnes tout à fait respectables, évidemment, qui reflètent plus la position historique de leur parti politique que celle qui est portée aujourd'hui. Et là, elle me fait penser, Nikki Haley, à Rishi Sunak. Qu'est-ce que t'en penses?
Peut-être on pourrait dire à cause de l'origine ethnique, par exemple.
Notamment.
Quoique Rishi Sunak, les conservateurs britanniques, c'est pas tout à fait la même chose que les conservateurs aux États-Unis, mais c'est là où les deux, et Sunak a l'air de s'en sortir un peu mieux, là. C'est-à-dire que, en gros, Boris Johnson, il s'est fait mettre dehors, pas par des gens de gauche,
non.
Par des vrais conservateurs qui ont dit, ça va faire les clowneries, là. Ça va faire le mensonge, ça va faire ce qu'on pourrait appeler la faillite morale. Et il y a de ces républicains honorables, Mitt Romney en est certainement oui. Un, qui se sont toujours tenus droit malgré les vagues de populisme, qui ont toujours dit un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge.
Liz Cheney.
Madame Haley, oui, et Liz Cheney certainement. Madame Haley, elle essaie là, de se mettre des habits de droiture extraordinaires, mais elle a joué dans la pièce de théâtre parce que ça l'aidait à un certain moment. Là. Mais il n'y en a pas beaucoup des républicains qui sont prêts à aller à la nomination en disant « Je vais être le candidat de la répudiation de Trump. » Parce que si vous regardez les sondages, Trump est encore premier. Alors, même si Trump est une candidature moins puissante qu'il y a 4 ans et encore moins d'il y a 8 ans, dire « Je suis l'anti-Trump », pas sûr que ça va vous amener loin au Parti républicain, malheureusement. Alors, il y a peut-être des parallèles à ce niveau-là.
Mais ça s'arrête là.
Oui, peut-être que le Parti républicain aux États-Unis est en bien plus mauvaise posture que le Parti conservateur en Grande-Bretagne.
On n'aurait pas pu dire la même chose il y a encore quelques semaines, là, quand on voyait chaque jour passer Liz Truss qui tenait d'heure en heure. Est-ce qu'elle allait rester? Est-ce qu'elle allait partir? Mais il faut dire que le Parti conservateur en Grande-Bretagne s'est un peu plus stabilisé que ne l'est le Parti républicain aux États-Unis. En parlant du Parti républicain, Donald Trump continue. Pourquoi il continue autant à faire peur? On a vu les élections de mi-mandat. Il n'y a pas eu le succès escompté pour les républicains. On se disait potentiellement que ça allait peut-être assombrir la capacité de Donald Trump à mobiliser puis à faire peur à de potentiels détracteurs. Et là, il y a comme une pensée magique au Parti républicain où on a juste envie que Donald Trump disparaisse par lui-même sans le faire disparaître de l'interne.
Oui, on est, je vais te parler un peu du Vatican à certains. Alors, en gros, Trump est toujours premier dans les sondages auprès des membres républicains, là, c'est-à-dire le vieux, là, presque des restants du Tea Party, mm-hmm. Déjà un peu déconnectés du sens de l'État, ça très certainement, déconnectés de la majorité des Américains. Paul Ryan a dit, en gros, Trump, c'est un super loser. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de perdre. Mais malgré ça, il est toujours premier dans les sondages. Puis là, c'est pas clair que si tout le monde y va, que Trump réussira pas à diviser l'opposition devant lui. À un contre un, ça pourrait être autre chose. Alors là, il y a plein de chefs républicains qui ont peur de mettre leur culotte. Et au lieu d'aller travailler, s'en vont à l'église. C'est-à-dire, comme dans les... Vous voyez, Yasmine, dans les vieilles histoires du Vatican, des fois, il y avait des papes qui étaient un peu plus problématiques, ou des évêques qui étaient plus problématiques. Au lieu de les dégommer, on invoquait une intervention du Saint-Esprit, des fois ramener les siens au ciel ou en enfer. Des fois, la mort, ça arrange plein de choses. Et là, il y a vraiment des dirigeants républicains qui disent, ben, s'ils pouvaient juste mourir, là, ça réglerait tous nos problèmes. Ça permettrait de se débarrasser de l'éléphant sans avoir besoin de l'abattre, sans avoir besoin de payer le prix pour s'en débarrasser. Quand tu es rendu à espérer à genoux que le ciel règle tes problèmes, soit la cause est perdue d'avance, soit c'est une extraordinaire preuve de manque de courage.
Ben voilà.
Et là, véritablement, il y en a qui disent, ben, il a 76 ans, il mange comme s'il était au cégep, il fait même pas d'exercice, sauf qu'il est encore là, il est pas tuable. Alors, à un moment donné, c'est quand la chasse aux oranges, c'est pas clair encore, là, si les républicains ont le courage de faire ça.
Guillaume Lavoie, on se retrouve demain.
Au plaisir.
Yasmine Abdel-Fadel. Des opinions tranchées. Des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Les excuses réclamées par plusieurs de la part d'Amira El Rabaoui sont arrivées en anglais, mais ils ont été exprimés. Et c'est en marge de la rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui les a formulées auprès des médias. Cette saga continue à faire couler beaucoup d'encre, tant au provincial qu'au fédéral, et met dans l'embarras certains partis politiques, notamment Québec solidaire. J'en parle avec Marie Monpetit et Steve Fortin. Bonjour Marie et Steve.
Allô Yasmine.
Oui.
Alors, Québec solidaire, comment justifier ce flou artistique qu'ils maintiennent, cette abstention à la motion d'hier? Steve, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, écoute, quand il est question de ces choses-là, tous les dossiers qui sont, si on veut, là, entre guillemets, identitaires, c'est des dossiers pour lesquels c'est toujours un petit peu plus difficile, on dirait, chez Québec solidaire, parce que il y a différentes visions et façons de penser là dans ce parti-là. Et il y a des camps, là, si on veut, là dans ce parti. Puis la première réaction que moi j'ai vu passer, c'est celle de Haroun Bouazi. Ça m'a pas surpris, donc qui lui disait bon ben voilà, une femme avec un voile, on veut faire diversion, puis il s'en prenait à François Legault à la CAQ. Moi, j'achète pas ça. J'aimerais rappeler que quand on a pris connaissance des commentaires de Sandro Grande, toute la classe politique, puis en fait toute la société civile presque là, s'est rangée derrière un consensus, c'était que c'était absolument inacceptable. Puis plus on prend connaissance des propos de Amira El Gawabi, c'est un peu la même chose qui est en train de se produire en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un large consensus par rapport à plus d'une décennie de commentaires souvent insultant, méprisant. Et j'aimerais rappeler, puis j'amène ça comme ça là, dans cette discussion-là, Yasmine, au Parlement du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, René Arsenault, il s'est dit qu'il a dit donc devant les parlementaires, je pense que je vais avoir besoin de Pepto-Bismol, parce que lui aussi voulait réagir aux propos d'Amira El-Gawabi, qui disait qu'elle avait envie de vomir lorsqu'un chroniqueur avait écrit que des francophones étaient un des plus grands groupes à avoir été victimisés au Canada. Puis ensuite, donc, il a rappelé qu'est-ce qu'était le grand dérangement puis la grande déportation des Acadiens.
Mais revenons, j'aimerais qu'on revienne à Québec solidaire. J'aimerais qu'on revienne à Québec solidaire et oui. Marie, j'aimerais t'entendre sur ce malaise chez Québec solidaire de défendre ce devant quoi tout le monde est unanime pour dire que les propos tenus par Mme El Gawabi ne sont pas admissibles aujourd'hui et ne seront pas admissibles demain, ils ne l'étaient pas déjà hier. Comment fait-il qu'ils ne sont pas capables?
Ouais, on dit souvent qu'une journée en politique, c'est un mois, c'est 6 mois, c'est une année. Écoute, il y a 48 heures, on disait à quel point, même pas il y a 48 heures, il y a 24 heures, on disait à quel point c'était le PLQ qui était dans l'embarras avec ce dossier-là, parce que Jennifer McCarron avait pris une position qui défendait Mme El Gawabi alors que Martin Guy prenait une autre position. Puis on disait QS arrivait habilement à marcher entre la peinture et le mur. Mais là, c'est juste pour nous mettre dans le contexte, c'est ça, c'est qu'il y a une motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale par Jean-François Roberge, qui, grosso modo, prend acte des propos qui ont été tenus par le passé, reprend ce qui est dans la sphère politique. Là. Donc, demande que l'Assemblée dénonce les propos, qu'elle réitère que l'État du Québec est laïque, promet l'égalité et la liberté de conscience de religion de tous les Québécois, et que l'Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral de mettre fin au mandat d'Amira El-Gawabi. Donc, tu sais, tout le monde a voté, donc la CAQ, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, la députée indépendante, c'était une motion, je vais dire, quasi unanime, ce qui est complètement... Donc, Québec solidaire a décidé de s'abstenir, mais ce qui est complètement capoté là-dedans, c'est que Québec solidaire, c'est eux qui ont demandé le vote. Parce que tu sais, là, une motion à déposer, puis des fois, c'est juste un pif-paf-pouf, OK, parfait, on a le consentement de tout le monde, OK, on passe à la prochaine motion, on passe à la prochaine motion. Il faut toujours qu'il y ait un leader d'un des partis qui se lève pour demander le vote. Puis quand tu fais ça, c'est une forme de statement pour être capable de dire, ben voici nominativement la position de tous les membres de mon caucus. Donc, c'est pas Québec solidaire, c'est pas retrouvé mal pris que c'est la CAQ qui a dit, ah ben non, c'est pas oui là, on va demander un vote. Oui. Non, c'est eux qui, tu sais, qui tirent dans leur propre but, à mon avis. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que il y a des factions très militantes dans ce parti-là. On sait qu'ils ont un congrès là, très, très, très prochainement. Donc, il y a dû avoir une espèce d'évaluation que c'était une position raisonnée de ne pas demander la démission tout de suite puis de demander de la rencontrer. Mais c'est un super mauvais début de session parlementaire pour eux. Là.
C'est particulier.
Il faut dire aussi, là, ce qu'il faut dire aussi, par exemple, c'est qu'il y a un axe orange là-dedans. Quand j'ai vu la réaction de Alexandre Boulris, le député du NPD à Montréal, je me suis dit, ben voilà. Puis, on est là-dedans. Les propos qui ont été tenus par Mme El-Gawabi, là, ce sont des propos que j'ai vus 100 fois par des militants qui étaient de Québec solidaire ou du NPD au Québec. Donc, si on se demande pourquoi Québec solidaire n'a pas réagi, ben c'est tout simplement parce qu'il y a des gens dans ce parti-là qui sont d'accord avec elle. Ça va, c'est pas plus loin que ça. Le collectif des coloniales antiracistes qu'il y a dans ce parti-là, moi, j'ai vu des gens souvent tenir des propos comme ça. Et puis, faut pas se demander pourquoi. C'est parce que dans ce parti-là, ça crée un malaise, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec elle, puis que si Gabriel Nadeau-Dubois sort sur la place publique puis il fait un Yves-François Blanchet de lui, parce que Yves-François Blanchet, dans certaines entrevues, dont hier matin à Cube, il a tenu des propos quand même très forts, ben non, Gabriel Nadeau-Dubois ne pouvait pas aller jusque-là, parce qu'il y a des gens dans son parti qui sont d'accord avec Mme El-Gawabi.
Malgré ça, évidemment, le Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé ne peuvent pas cautionner les positions de tous les militants d'un parti politique ou défendre toutes les positions d'un parti politique. Est-ce que le timing, si je me permets l'expression en anglais, du congrès qui va faire suite à l'élection qu'il considère être un échec pour Québec solidaire, fait en sorte qu'ils prennent ça avec... qu'ils prennent ça avec délicatesse et qu'ils ne veulent pas se prononcer là-dessus? Le problème, c'est que plus ils ne parlent pas, plus on va parler de leur silence. Est-ce que ça risque de leur coûter d'un point de vue de l'opinion publique, Marie?
Bien, tu sais, encore là, ce qui se passe en ce moment ne sera plus dans la mémoire collective. On n'en parlera plus dans un mois ou dans deux mois ou dans trois mois, puis on va en parler encore moins en 2026, dans quatre ans, quand on va être rendu à l'élection. Tu sais, c'est une chose, je ne pense pas que ça leur c'est un faux départ, c'est un mauvais départ. S'abstenir dans une motion, c'est quand même quelque chose qui est relativement, je veux pas dire, c'est pas rare, là, mais je veux dire, généralement, t'es pour ou contre une motion, puis t'essayes comme parti politique de te positionner. Quand tu t'abstiens, c'est un peu le pire des mondes. Là. C'est vraiment dire, je ménage la chèvre et le chou, puis j'ai des enjeux à l'intérieur, puis j'ai des conflits, soit dans mon caucus, clairement, il doit avoir c'est pas des conflits, c'est au moins des visions qui sont opposées. Effectivement, moi, je pense qu'on peut penser à M. Boisy qui loge probablement pas à la même place que certains autres de ses collègues, mais ça annonce quand même assez mal pour leur congrès de février. Et ça, c'est un peu l'enjeu qu'a Québec solidaire depuis quelques années, en tout cas, à tout le moins depuis les 4, 5, 6 dernières années, où ils traînent des factions qui sont pas réunis. Puis tu sais, oui, tu peux avoir dans un parti politique des je vais dire, tu sais, on l'a fait 100 fois, Yassine. Toi et moi, là, on était dans des conseils généraux, je sais pas combien de fois. Il y a des propositions politiques qui sont déposées. Tu peux être pour, tu peux être contre. Mais c'est pas sur des enjeux fondamentaux de valeur. Puis là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment un shift qui est en train de, tu sais, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé, puis ils arrivent pas à rallier puis à marcher tous dans la même direction à chaque fois qu'on est dans des enjeux identitaires, voilà. Notamment.
Mais je veux vous entendre sur, là, elle vient de s'excuser il y a quelques minutes, elle a formulé des excuses. À partir de maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on accepte les excuses, puis on passe à autre chose et on la reconnaît comme une personne qui a l'autorité d'un commissaire à la lutte à l'islamophobie? Ou est-ce que on continue de réclamer à Justin Trudeau de la démettre de ses fonctions? On fait quoi à partir du jour de maintenant?
Steve? Ben écoute, vas-y Steve.
En tout cas, je vais comparer deux situations parce que pour moi, elles sont analogues. Quand Sandro Grande a présenté ses excuses, j'ai senti qu'il y avait là un réel processus qui s'était fait et tout ça, puis je sentais qu'il y avait, j'étais plus enclin à accepter les excuses de Sandro Grande que ce que je viens de voir, par exemple, ce que je viens de lire à propos de Mme El Gawabi. C'eût été la moindre des choses de faire ses excuses en français, elle a refusé de le faire à deux reprises, elle l'a fait en anglais, parce qu'après tout, on parle des Québécois, puis il y a des trucs que je lis parce qu'on en découvre toujours de plus en plus, hein. Donc on va continuer à creuser, mais sa référence à John Ralston Saul sur la pureté de la race, puis on est rendu très très loin dans ce qu'elle a dit, c'est extrêmement blessant. Puis moi j'ai de la difficulté à penser que cette personne-là va un jour avoir ce qu'il faut pour être capable de bâtir des ponts quand elle a creusé des abysses et elle a participé à ça. C'est une militante radicalisée. Et moi, je vois pas comment cette personne-là peut se trouver là. Il y a d'autres gens. Puis je n'aime pas qu'on prenne cette personne-là puis qu'on dise, comme Justin Trudeau l'a dit, qu'elle peut parler pour la communauté musulmane, je sais pas quoi. Non. Il y a des gens qui seraient probablement, si on veut garder ce poste-là, il y a des gens qui seraient probablement pas mal plus enclins à créer des ponts que cette madame-là. Moi, c'est non. J'accepte pas ça.
Marie?
Ben écoute, moi je te dirais deux choses. Trop peu, trop tard. Ça fait déjà, écoute Steve, on a commencé à parler de ça dans notre chronique de vendredi ou jeudi dernier. Là, ça fait ouais. 6 jours qu'elle est prise dans une controverse. Puis là, c'est des excuses qui sont faites un petit peu du bout des lèvres. Là, je vais te dire comme ça. C'est très très bien qu'elle le fasse, mais tu sais, je trouve que ça arrive quand même un peu tardivement. Si elle avait, moi en tout cas, ça me questionne sur à quel point elle a bien saisi l'ampleur, pas l'ampleur de la situation, mais à quel point c'est l'impact, les effets, les conséquences de ce qu'elle a dit, d'un. De deux, je continue de me questionner sur comment elle perçoit tous ces enjeux-là, sur où elle se situe, parce que c'est quand même des choses qu'elle a dit. Et une fois qu'on a tout dit ça, sa crédibilité pour bâtir les ponts, pour remplir son mandat, quand même, sa crédibilité, elle est très, très entachée. Elle va se retrouver, moi, à mon avis, encore dans ce genre de controverse si elle reste dans la position dans laquelle elle est, parce qu'elle aura à reprendre parole sur des enjeux qui sont toujours très délicats, qui sont toujours très explosifs, qui partent en débat à chaque fois. Et il suffirait qu'elle fasse comme un pas, un petit peu de travers pour qu'on reparte dans un débat. Et ça ne sert pas la cause. Ça ne sert pas la cause des immigrants. Ça ne sert pas la cause des néo-québécois. Ça ne sert pas la cause de personne.
Ça, c'est évidemment un sujet qui va être, qui va continuer de se développer, parce que maintenant que les excuses sont formulées, en anglais évidemment, on les a pas encore entendues en français.
Elle les a fait en français aussi. Bon, elle vient toujours de les faire, ouais.
Elle vient de les faire en français également. Alors, quoi faire à partir de maintenant? Quelles seront les positions tant du gouvernement du Québec, des autres partis politiques, de Québec solidaire? On va continuer de les suivre. Et on va probablement jaser Steve et Marie, demain? Probablement. Cette saga va continuer comme un soap opera qu'on aime regarder.
À demain.
Ouais. À demain.
Salut, à demain.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Un ours polaire subit des tests médicaux. C'est l'ours polaire Kinook. Et on va l'endormir, le déplacer pour y faire des tests médicaux parce qu'il aurait quelques problèmes de santé. Et là, on se demande comment on peut organiser d'un point de vue logistique le déplacement d'un animal aussi qui peut faire peur, qui peut être dangereux, mais qui a besoin en même temps de soins. Alors, on en parle avec Marie-Pierre Lessard, qui est directrice de la conservation de l'Aquarium de Québec. Bonjour, Madame Lessard.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous l'ours polaire qui nous, qu'est-ce qu'il a déjà à la base? Quelles sont les problématiques, les symptômes qu'il présente que l'on veut investiguer?
Alors, ça a commencé à se déclarer au début de décembre. Kinook avait des changements un petit peu au niveau de son comportement. Il avait une marche qui était un peu plus chambranlante. Il avait parfois une perte d'équilibre. Puis, il faisait des signaux également d'apaisement. Là, donc, il baillait beaucoup. Et ça nous démontrait vraiment qu'il n'avait pas un comportement normal selon l'observation des guides animaliers qui s'occupent de lui à tous les jours.
Et comment on procède à une telle décision pour dire, OK, on va lui faire faire des tests. Comment se prépare à ça la logistique entourant ces déplacements-là?
Alors, avant de prendre la décision d'aller à la faculté de médecine, on a regardé qu'est-ce qu'on était capable de faire ici à l'aquarium pour avoir des premiers résultats, pour voir si on serait capable de le faire sans le déplacer. On est obligé d'admettre qu'on n'était pas capable de faire les tests nécessaires ici à l'aquarium. Donc, ce qui est vraiment c'est vraiment ça qui a vraiment fait qu'on a décidé de se rendre à Saint-Hyacinthe. Au niveau de la logistique, il y a un bout qui a été vraiment super facile, c'est que Kino, qui est déjà entraîné pour rentrer de façon volontaire dans une cage. Donc, on n'a pas eu besoin de l'anesthésier pour qu'il rentre à l'intérieur. On lui a seulement demandé d'aller dans la cage, on a fermé la cage et ensuite, on a pu la transporter à l'aide d'un chariot élévateur dans un camion et le camion a transporté Kino jusqu'à la faculté.
Est-ce qu'on prévoit des plans de contingence lorsqu'on fait des déplacements avec un tel animal? Des plans, par exemple, là, les seuls qui viennent à l'esprit, c'est ben il y a du trafic, on est bloqué dans un bouchon, on reste là plusieurs heures, on fait quoi avec cet animal?
Donc oui, on a un plan de contingence. C'est à toutes les fois qu'on transporte un animal du genre, on a toujours des plans A et des plans B. Quand on va faire, on a la chance que Saint-Hyacinthe est quand même assez près de nous, donc à moins de 2 heures. Si on était tombé, par exemple, sur un accident où on avait un bouchon de circulation qui aurait été trop important, on aurait pu seulement retourner puis revenir à l'aquarium. Ça, c'était déjà dans les possibilités. Sinon, au niveau de la sécurité, on a toujours un deuxième véhicule qui suit à l'arrière du camion qui transporte l'animal avec à l'intérieur un vétérinaire et quelqu'un qui assure la sécurité. On apporte également avec nous, si on irait vraiment dans le cas extrême, là, qu'il y aurait un accident avec le camion puis que l'animal devrait être transporté d'une cage à une autre ou quoi que ce soit, on amène avec nous un fusil anesthésiant donc qui contient des fléchettes qu'on serait capable d'anesthésier l'ours sur place pour que sa sécurité soit là puis que la sécurité des gens alentour de lui soit également assurée.
Grosso modo, combien de personnes sont mobilisées pour assurer ce déplacement, ces examens et le retour évidemment à l'aquarium?
Pour la préparation au départ, on était environ 8 personnes pour être capable de faire rentrer l'animal dans la cage, de sécuriser la cage, de la rentrer avec le chariot élévateur dans le camion. Pendant le transport, on était 4. On était avec une personne qui conduisait le camion. On avait un guide animalier qui est responsable de Kinook, donc qui le connaît super bien. On avait également notre vétérinaire qui était avec nous, puis j'étais aussi là pour également là, assurer la gestion du déplacement. Rendu à la faculté, on était vraiment beaucoup de monde. Il y avait presque une 20aine de personnes de différents départements là, qui ont travaillé à tour de rôle là, sur Kinook pour faire tous les tests.
Est-ce qu'on profite du fait de l'emmener dans un hôpital vétérinaire pour faire d'autres tests ou faire des études ou faire des prélèvements qui dépassent la raison pour laquelle on l'a emmené là à la base? Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un ours polaire à Saint-Hyacinthe, donc j'imagine qu'il y a des études qui veulent être faites là-dessus.
Oui, certainement, vous avez tout à fait raison. Quand on va faire une anesthésie comme ça sur un animal comme un ours, on veut pas faire ça trop souvent. On fait ça le moins souvent possible en réalité. Et lorsqu'on va le faire, si on avait des questionnements sur autre chose, exemple, on veut voir vraiment l'état de ses dents, on va prendre le temps de faire un examen complet de sa dentition pendant qu'il y a un médecin qui fait, un vétérinaire qui fait une autre analyse dessus. On va également, tant qu'à prendre des prises de sang, on va analyser tout ce qu'on est capable d'analyser pour avoir des données de référence. Si un jour on a besoin de reprendre d'autres prises de sang pour tester quelque chose d'autre, Donc oui, effectivement, on a vraiment pris la peine de faire toutes les tests qu'on était capable de faire dans la période de temps qu'on avait pour avoir le plus de réponses possible.
Un ours polaire à Saint-Hyacinthe, on voit pas ça tous les jours, évidemment. On s'imagine pas que ça peut être quelque chose qui va s'inscrire dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des curieux qui veulent venir voir l'animal pendant qu'il est à Saint-Hyacinthe?
À la base, la faculté de médecine, c'est une école.
Oui.
Alors, c'est certain que les étudiants étaient très curieux. On a eu beaucoup de monde qui sont passés durant la journée pour venir voir l'animal. En soi, Kinook était stable, donc c'est quelque chose qui était possible pour eux de venir voir les animaux. Il y a également une personne de la faculté qui était mandatée pour prendre des photos, pour documenter les procédures qu'on allait faire dessus, pour pouvoir éventuellement faire des présentations ou autres pour documenter, justement, parce que ça n'arrive pas souvent, puis ça nous permet d'apprendre également pour éventuellement d'autres anesthésies qui pourraient arriver là dans le futur.
Et parlez-nous de Kinook. Il pèse combien? Ça a quoi comme volume, cet animal? Et parce que quand on s'imagine, pour des mesures de sécurité, s'il se réveille en plein milieu d'une de ces anesthésies-là, il est pas dans... Il faut prévoir de l'espace, là. Il faut prévoir des moyens de pouvoir s'enfuir. Comment on organise ça?
À la base, Kinook, premièrement, il pèse environ 450 kilos. C'est quand même un ours d'un bon format. Pendant l'anesthésie, c'est sûr qu'il est sorti de sa cage pendant l'anesthésie pour prendre les radiographies, faire les échographies, tout ça, on peut pas le laisser dans sa cage. Les vétérinaires là-bas ont des médicaments de secours qu'on pourrait dire, donc, comme un humain, lorsqu'il va être anesthésié, on va installer une perfusion dans une de ses veines pour qu'il y ait toujours du liquide qui rentre dans ses veines pour l'hydrater, et également, il va avoir des médicaments d'urgence qui vont être installés sur cette perfusion-là. Donc, si Kinook avait montré des signes de réveil, il y a des drogues qui auraient pu lui être données pour s'assurer qu'il se rendorme vraiment très, très rapidement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de, au niveau de la sécurité qui va être faite pour s'assurer que si jamais il arrivait quelque chose, mais il n'a même pas démontré aucun signe de réveil là, tout au long de l'anesthésie jusqu'à ce qu'on le réveille là, par nous-mêmes.
Marie-Pierre Lessard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de la conservation à l'Aquarium du Québec.
Mais merci beaucoup. Passez une belle journée.
Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morinville-Ouellette.
Alexandre Morinville-Ouellette, très heureuse de te parler et parlons de ces fameuses excuses qu'on a tellement attendues et qui sont finalement arrivées en anglais d'abord.
Oui, en anglais. Ensuite. Soyons honnêtes, en fait, elle a commencé à parler en français là, au départ, mais elle a présenté les excuses là, qu'elle avait à faire en réponse à une question des médias anglophones. Donc, c'est ce qu'elle a répondu en premier. Elle dit, je veux dire que je suis désolé pour la portée de mes propos, combien ils ont blessé le peuple québécois. Et c'est ce que je vais exprimer à M. Blanchet parce qu'elle disait ça en marge, évidemment, de sa rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Donc, n'a pas répété ses excuses en français par la suite, mais après la rencontre, est censé reparler à nouveau aux médias. Donc, c'était comme l'avant, il y aura l'après. Donc, il risque d'avoir d'autres réponses de sa part. On verra si ça réussira à calmer la tempête qui dure quand même là, depuis sa nomination. C'était pas beaucoup exprimé depuis, à part les espèces de simili-excuses qu'elle avait fait. En fait, c'était pas des excuses, c'était une précision de ses propos là, lorsqu'elle était revenue sur ce qu'elle avait écrit dans une chronique là, au départ, en disant que la majorité des Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Donc, ça avait... Parce qu'au départ, c'était pas, comment dire, on attendait des excuses du côté du gouvernement québécois. Là, même Jean-François Roberge qui était sorti pour la CAQ en disant qu'on attendait des excuses puis qu'il lui laissait le temps. Finalement, les précisions, ça avait pas été suffisant. Puis c'est après ça qu'on avait demandé sa démission.
Penses-tu que ça va être assez pour essayer de pour la maintenir en poste ou trop peu trop tard?
Ben moi j'ai hâte d'entendre ce que Yves-François Blanchet lui-même va dire parce que c'est certain que si pour lui la rencontre est pas satisfaisante, ben il va pouvoir après ça l'exprimer. En même temps, il se retrouve un peu avec une patate chaude entre les mains là. Ce serait bizarre quand même qu'il ressorte de là en disant bon, on s'est obstiné à refuser de reconnaître quoi que ce soit, puis aux douches on veut encore qu'elle parte. Ce serait étrange un tout petit peu là. Si elle se pointe en rencontre avec lui, ça va être sûrement pour continuer à s'excuser puis aborder ses points de vue et tout le reste. Après ça, on verra.
Mais là, c'est-tu moi où j'ai l'impression que Yves-François Blanchet, c'est celui qui veut la jouer le plus conciliateur, médiateur, essayer de comprendre avant de tirer sur le messager. Tu sais, j'ai l'impression qu'il la joue différemment de François Legault, qu'il la joue différemment de Justin Trudeau sur un autre extrême et qu'il s'exprime avec beaucoup de délicatesse.
Oui, peut-être un peu plus que d'habitude même. Je suis surpris parce qu'habituellement, il aurait sauté sur cette occasion de tomber à bras raccourcis sur Justin Trudeau. Surtout, on rappellera que M. Trudeau a réitéré son entière confiance.
À 100%.
Et que là, ce matin, finalement, tempéré ses propos de nouveau dans un point de presse alors qu'il arrivait aux communes. Puis c'est certain, ça, c'est un peu un classique là, hier. Justin Trudeau a jeté de l'huile sur le feu aujourd'hui. Il a vu avec la réaction que ça a suscité, revenu tempérer un tout petit peu, parler quand même de ce que les Québécois, Québécoises ont vécu de manière historique, ce qui n'avait pas été mentionné du tout jusqu'ici. D'ailleurs, on se souviendra que Mme El-Gawabi avait déjà dit un commentaire comme quoi ça lui donnait envie de vomir d'entendre que les Québécois, les Canadiens francophones avaient été là la cible de beaucoup de discrimination dans l'histoire du Canada. C'est sûr que c'est un dossier... Elle risque de garder son poste quand même, là, j'imagine, la manière dont ça se profile. Là, M. Trudeau a pas l'air de vouloir la faire démissionner, puis elle a pas l'air de vouloir partir de son propre chef non plus, Yasmine. Est-ce que ça risque de finir par s'éteindre, ce feu-là? Parce qu'après ça...
Mais l'autre... quelle crédibilité elle va garder?
Mais c'est ça, moi, ma prochaine question. Si, après ça... Elle prend, parce qu'elle prend pas vraiment des décisions. Elle va émettre des recommandations, elle va participer. Mais chaque fois qu'elle va s'exprimer publiquement, là,
on va rappeler Gawabi, ça.
Ben, tout le monde va la regarder. Là, toutes les caméras, tous les micros vont être sur elle à chaque fois qu'elle va prononcer quoi que ce soit. Est-ce qu'elle va, après ça, être à l'aise de faire l'ensemble de son travail? Est-ce que ça va teinter ce qu'elle va faire? Ou au contraire, est-ce qu'elle risque de ravoir encore des propos comme ceux-là? Ça serait étonnant, mais quand même, c'est curieux ce qu'elle risque de faire après ça comme travail.
Et là, on apprenait que même Québec solidaire allait la rencontrer.
Québec solidaire veulent la rencontrer aussi. C'est l'espèce de drôle d'incongruité aussi qu'il y a eu hier avec la motion qui est passée à la quasi-unanimité puisque Québec solidaire s'est finalement abstenu
alors
sur cette motion-là.
Alors qu'ils avaient demandé le vote...
Mais c'est ce qui est le plus étrange. Puis on a de la difficulté, puis c'est la même chose qu'on a vu au Parti libéral aussi. On dirait qu'on a une espèce de dissension parmi les propres rangs. Jennifer McCarron, qui était sortie au départ pour aller donner son soutien, son appui à Mme El-Gawabi. Finalement, le tweet est effacé. Marc Tanguay, qui est forcé de sortir en point de presse pour dire complètement le contraire. Puis on peut penser, là, évidemment, dans la spéculation, on peut penser qu'au sein de Québec solidaire, il y a des gens qui sont fiers indépendantistes, des gens qui ont une fierté nationale québécoise aiguë, et qui, je pense à Sol Zanetti, par exemple, entre autres, là, le premier qui vient en tête. Ces gens-là, clairement, qui n'ont pas été extrêmement heureux là, de la manière dont ça s'est déroulé du côté de Québec solidaire, un volte-face comme ça. Là, ils jouent la carte la même que celle de François Blanchet, mais là, une deuxième rencontre avec des politiciens au Québec, qu'est-ce que ça va apporter?
On cherche à aménager la chèvre et le chou?
Ouais, ben je pense que oui. On essaie de plaire à certaines personnes, certaines communautés qui voudraient appuyer Mme El-Gawabi d'un autre côté. Ils ont pas voté contre, fait qu'ils peuvent. On peut pas leur reprocher d'être contre tout ça. On veut juste plus de clarification et d'explication. Ouais, c'est un jeu politique là. C'est tenter de prendre, je pense, un peu de place dans ce torrent médiatique qui est autour de l'affaire là, de Mme El-Gawabi. Mais c'est certain, ça a fait couler beaucoup d'encre. Puis il faudra voir si ça va s'éteindre ou si c'est pas fini encore. Moi, c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir Yasmine là, parce que ça. Mettons que ça commence en force là, les sessions parlementaires et à Québec et à Ottawa.
Alex, je me dis dans tout ça, on parle pas de lutte à l'islamophobie. Dans tout
c'est vrai?
Ça. On parle pas des attentats à Québec. Dans tout ça, on parle pas de ceux qui ont été tués à London, Ontario. Dans tout ça, on perd l'essentiel.
Ouais.
Et là, si on se rend compte que l'ambassadeur, l'émissaire est pas capable de remplir son rôle, de mettre ça en avant, ben c'est peut-être pas le bon ambassadeur puis le bon émissaire.
Ça fait beaucoup de bruit, puis je tiens à dire, écoute, en même temps, tu sais, j'ai l'air de changer complètement de sujet, mais moi... C'est ce genre de tapage médiatique qui éclipse d'autres sujets. J'ai vu le député de NPD, Matthew Green, écrire sur Twitter en disant il a suggéré une motion, semble-t-il, hier à la Chambre des communes pour condamner les propos de Tucker Carlson aux États-Unis. Tu sais que cet animateur controversé de Fox News qui a suggéré que les États-Unis devraient attaquer le Canada pour nous libérer de la tyrannie communiste de Justin Trudeau. Eh bien, cette motion-là a été battue, semble-t-il, à cause de plaintes de noms des conservateurs. Et ça, ça s'est pas rendu jusqu'à nos oreilles. Pourtant, je pense que c'est digne de mention.
Je pense qu'on devrait en parler demain. Alexandre Morin-Vouette, merci beaucoup.
Salut.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
la nouvelle façon de comprendre l'actualité.
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, allons retrouver Yasmine Abdel-Fadel qui est avec nous. Bon retour, Yasmine.
Bonjour, Julie. Très contente de te retrouver.
Idem pour notre équipe aussi. Je pensais qu'on allait au super ministre de l'économie, de l'énergie, Pierre Fitzgibbon, mais on me dit qu'il vient de terminer de répondre aux questions des journalistes. C'est le Conseil des ministres aujourd'hui à Québec, mercredi. Alors, il y a... Alors, est-ce qu'on va à Jean-François Roberge? Oui, allons-y, Yasmine.
Elle a tenté de Jean-François Roberge. Ses propos. En continuant de citer à tort un sondage, en interprétant de manière incorrecte les informations. Et c'est une erreur qui est trop grave. Donc, je pense que c'était une bonne chose qu'elle s'excuse. J'apprécie ses excuses, mais je crois toujours pas qu'elle a la légitimité, la crédibilité pour occuper la fonction que le premier ministre lui a confiée. Donc, je pense que maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de remettre sa démission.
Mais pourquoi elle n'a pas la légitimité, selon vous?
Parce qu'elle a fait des déclarations qui sont terribles, qui s'apparente à du racisme. Elle a exprimé d'abord des préjugés qui sont très graves à l'égard des Québécois. Elle a pris beaucoup de temps avant de s'excuser. Puis je répète qu'avant de présenter des excuses aujourd'hui, elle a tenté de justifier des propos qui étaient totalement odieux et inacceptables.
Elle s'excuse.
Mais c'est peut-être une bonne chose à faire, mais je ne pense pas que ça rétablit tout le tort qu'elle a préalablement causé. Donc... C'est une bonne chose qu'elle le fasse, mais je pense pas qu'elle a la légitimité, la crédibilité pour jouer le rôle qu'elle doit jouer.
Voilà. Manque de jugement, quoi, vous diriez, M. Robert?
Elle a préalablement manqué de jugement et elle a dit des choses qui étaient inacceptables. Encore une fois, je pense que c'est une bonne chose qu'elle s'excuse. Tant mieux, c'est un geste d'humilité, mais je pense pas que ça la qualifie pour jouer le rôle que le premier ministre lui a confié.
Alors voilà, Yasmine, on vient d'entendre le ministre Jean-François Roberge, ministre notamment de la laïcité, qui accepte les excuses de Mme El-Gawabi. Elle a présenté finalement ses excuses. Désolée d'avoir blessé le peuple québécois. Mais elle n'est pas légitime, selon lui, d'assurer les fonctions que le gouvernement fédéral lui a confiées. Es-tu du même avis?
Ben c'est sûr que les excuses sont un peu arrivent tardivement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, elle a un rôle d'émissaire, un rôle d'ambassadeur, un rôle de conseillère auprès du gouvernement pour la lutte à l'islamophobie. Donc, la première qualité à avoir dans ce genre de rôle est celui de bâtisseur, de rassembleur, d'être quelqu'un qui a la crédibilité, qui a l'autorité morale de pouvoir jouer ce rôle. Or, Mme El-Rabaoui s'est disqualifiée en tenant les propos qu'elle a déjà tenus de ce rôle-là. On ne peut l'imaginer être en train de bâtir des ponts entre la nation québécoise ou de parler notamment de la question de ce que peuvent vivre certains membres de certaines communautés un peu partout au pays et d'avoir la crédibilité, l'autorité morale et finalement les coups des franges de pouvoir le faire sans être accusé de devoir finalement alimenter les réflexions qu'elle a tenues avant. Et c'est là la problématique.
Alors Yasmine, je dois t'interrompre encore une fois parce qu'on doit aller au ministre Christopher Steele. Allons-y.
Plus c'est décevant. J'accepte humainement ses excuses, mais honnêtement, on doit se poser la question si c'est encore la bonne interlocutrice pour le dossier. Moi, je le pense pas. La majorité des Québécois, je pense, ne le pense pas. Donc, je pense que si son rôle numéro un, c'est de bâtir des ponts, je vois pas comment qu'elle peut le faire.
Comment vous accueillez les propos de M. Trudeau?
Je m'excuse, j'ai pas entendu M. Trudeau. Qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Bien, M. Trudeau, il a dit en substance qu'il y avait une vision de la laïcité au Québec qui était propre au Québec. Est-ce que ça, c'est...
Bien, écoutez, là, on parle de... La laïcité, c'est une chose. Le dossier du racisme, c'est un autre. Moi, la laïcité, c'est pas le racisme. Pour moi, de faire ce genre d'amalgame-là, c'est pas la façon de faire avancer et de construire des ponts. Pour moi, le racisme, c'est de dire à quelqu'un, à cause de qui tu es, à cause que tu es né, tu es exclu, on veut pas toi et on te juge. On n'est pas là-dedans avec la laïcité. La laïcité d'État, c'est pour se libérer de la religion et de se donner le contrôle de notre vie à l'intérieur de l'État. Ça ne change rien à ce qu'une personne va faire dans sa vie privée. Alors, de mélanger les deux, je pense que c'est toujours dangereux. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette personne-là, c'est encore la bonne interlocutrice. Moi, je ne le pense pas.
Merci.
Alors, retournons à Yasmine. Donc, il semblerait qu'au sein même du Conseil des ministres, c'est un peu le même mot, là, que même façon de penser, c'est-à-dire on accepte ses excuses, mais on demande néanmoins sa démission. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc,
ben, je pense que le problème ici,
faut avouer à moitié pardonner, ça ne s'applique pas dans ce cas-ci pour le gouvernement de la CAQ.
C'est que le sujet est trop sensible. Quand on parle de lutte à l'islamophobie, là, on n'est pas en train de parler d'un poste où c'est quelqu'un qui ne va pas gérer des questions délicates. Il faut avoir un doigté, il faut avoir une diplomatie, il faut avoir un savoir-faire et un savoir-être pour pouvoir travailler sur des questions aussi délicates que l'islamophobie et la lutte à l'islamophobie. On ne sait pas, on n'a pas l'impression que Mme El Rabaoui, elle a ces atouts-là. Elle n'a pas fait preuve de délicatesse, de doigté et de jugement dans les dernières années. On peut se dire que si le passé est garant de l'avenir, ça ne risque de pas être très brillant pour l'avenir. Et l'islamophobie, c'est un sujet qui est important, qui est très important, qui a coûté la vie à du monde à Québec, qui a coûté la vie à une famille à London, Ontario. C'est un sujet où il faut quelqu'un qui a une autorité morale, qui a les coudées franches pour mener à bien la mission qu'est la lutte à l'islamophobie. Et dans ce sens, le premier ministre Trudeau a le devoir de nommer quelqu'un qui puisse avoir la crédibilité que Mme El Rabaoui n'a plus, n'a pas. Et s'il prend le sujet de la lutte à l'islamophobie au sérieux, il va mettre quelqu'un qui puisse assurer l'adhésion de toutes les communautés, de toutes les nations à la lutte à ce fléau qui coûte la vie, rappelons-le, à des Canadiens régulièrement. Et c'est là où le Justin Trudeau joue aussi sa crédibilité dans le sérieux qu'il porte à ce dossier-là. Il est temps de mettre le couvercle sur la marmite, de démettre Mme El Rabaoui de ses fonctions et de nommer quelqu'un avec la crédibilité nécessaire face à ce dossier hyper délicat.
Mais s'il ne voulait pas la démettre de ses fonctions avant qu'elle s'excuse, peu probable qu'il le fasse après ses excuses, en terminant.
Ben, il s'agit ici de la société civile. On voit que les excuses ne sont, sont peut-être acceptées, mais ne peuvent justifier ce qui a déjà été dit. Les ponts sont réellement... il n'y a plus de pont entre les communautés, notamment le Québec et Mme El Rabaoui. Et on le sait bien, une forte communauté musulmane habite au Québec et a besoin d'un émissaire de lutte à l'islamophobie qui puisse avoir la crédibilité auprès du premier ministre Trudeau. Il est temps qu'il prenne ça au sérieux.
Yasmine, ça a été un plaisir de te retrouver. Ça a été court, intense, mais combien
efficace. On se reprend demain.
Alors, on se dit à demain. Salut, Yasmine.
Au revoir. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve demain. On continuera avec la saga de Amira El Rabaoui et évidemment tout ce qui nous occupe et occupe l'actualité. Je vous laisse entre les mains de ma collègue Sophie Durocher et je vous dis à demain.
Cube Radio.